Chapitre 6. Au quartier général de la Gestapo, 8 Prinz Albrecht Straße, une longue journée se terminait pour le Reichsführer Himmler. Arrivé au petit matin de son château de Wewelsburg, qu'il quittait toujours à regret, il s'était plongé dans les dossiers en souffrance. Ses secrétaires faisaient le tri, écartant d'emblée ce qui leur paraissait indigne de figurer sur le bureau du chef suprême de toutes les polices. Malgré cela, les piles de documents s'entassaient dès que Himmler s'éloignait de Berlin. Pour tout arranger, il devait ce jour-là s'éclipser plus tôt que d'habitude pour assister à un cocktail auquel il ne pouvait échapper. Il consulta sa montre une dernière fois, 17 heures. Non, décidément, Trudy Schneider ne serait pas au rendez-vous que son chef lui avait fixé. Non que cela fût inquiétant en soi, c'était déjà arrivé dans le passé. Entre un entretien avec Himmler et une piste prometteuse, la jeune femme choisissait ce qui, à terme, serait le plus utile au Reich. Il est vrai que dans ce cas, elle téléphonait pour prévenir. Eh bien, cela prouvait qu'elle n'avait pas d'appareil à portée de la main. Force était d'admettre que les télécommunications ne fonctionnaient pas toujours bien, pour des raisons que le Reichsführer Himmler préférait ne pas connaître. Pour l'heure, il ne fallait pas s'inquiéter. L'Allemande était fiable. Où qu'elle fût, sans doute en dehors de Berlin, elle faisait son devoir. Sans doute rentrerait-elle chez elle tard dans la nuit. Himmler, une fois de plus, nettoya avec soin les verres de son pince-nez. Il lui restait un ordre de mission à signer, celui qui conduirait Rudolf Breuer au camp de Buchenwald. Le mieux pour que la surprise fût complète serait de confier le document au chauffeur, l'Obersturmführer Bormann. Demain matin, celui-ci irait chercher Breuer à son domicile, lui signifierait sa promotion et le prierait de prendre quelques effets personnels en vue d'une absence prolongée. Une mission délicate et confidentielle, choisie pour lui par le Reichsführer en personne. Puis le cabriolet prendrait le chemin de Weimar. « Weg mit Schatten !» songea Himmler. « Oui, bon débarras !» Le nouvel Oberfeldwebel Breuer était un casse-pied, mais il ferait merveille à Buchenwald. À peine arrivé, il se mettrait à rédiger des notes de service. Avec lui au moins le registre des décès, le Totenbuch, serait tenu avec soin. Depuis quelque temps, les chiffres fournis par l'administration des camps étaient approximatifs. À cette date du 8 septembre, lui, le Reichsführer, aurait été bien incapable de dire combien de Juifs étaient internés dans les camps. Avec Breuer, on le saurait au moins pour Buchenwald, à une unité près. Himmler poussa un soupir. Il était essentiel pour le Reich de disposer de chiffres fiables, car la main-d'œuvre spécialisée manquait, et il y avait ces expériences médicales auxquelles Himmler tenait beaucoup. Or, certains commandants des camps montraient trop de zèle et exécutaient avant de penser. C'était une bonne chose de faire le ménage, surtout s'il s'agissait des Russes. Mais à quoi bon exterminer tous les Juifs, alors que certains d'entre eux étaient très qualifiés, et que d'autres, les jumeaux par exemple, pouvaient servir la cause dans les laboratoires du docteur Mengele. Endlösung, solution finale, ne voulait pas dire extermination aveugle et immédiate. Il convenait de faire un tri rationnel. Breuer n'était pas très fin, mais il savait faire des colonnes et aligner des chiffres. Les camps étaient devenus une entreprise très rentable, grâce à l'or et aux bijoux que l'on récupérait sur les Juifs, et les finances des SS étaient florissantes. Mais l'administration, au jour le jour, devait encore être améliorée. Himmler agiterait devant Breuer une nouvelle carotte. S'il réussissait à Buchenwald, on lui donnerait un petit grade à la SS. Le chef de toutes les polices remit dans sa serviette le livre qui l'accompagnait depuis quelques jours. Une passionnante étude dans laquelle on apprenait que le roi Arthur était né à la frontière de l'Écosse et de l'Angleterre. Sa capitale s'appelait Carlisle, l'ancienne Lugubrium des Romains, et c'est près du mur d'Adrien que le grand chef des Saxons était mort. Dès que l'Angleterre serait enfin occupée par l'Allemagne, sans doute en 1943, après la défaite des Russes à Stalingrad et celle des Anglais en Égypte, Himmler s'accorderait une petite gâterie. Il prendrait l'avion pour l'Angleterre et irait flâner à Carlisle et sur le mur d'Adrien, là où flottait encore le fantôme d'Arthur. En attendant, il allait falloir, une fois de plus, régler certains détails domestiques avec son épouse, la glaciale Margaret, puis retrouver sa douce maîtresse Hedwig. Himmler poussa un nouveau soupir. Les femmes finiraient bien par avoir sa peau. C'est peut-être Röhm qui avait raison. Avec les hommes, tout était si simple. Il suffisait d'un rien pour les satisfaire. Un quignon de pain, un verre de schnapps, un morceau de fromage, une décoration, un compte en Suisse. En descendant vers l'entrée, Himmler croisa le Sturmbannführer Arnold Reinhardt, l'un des responsables de la Gestapo à Berlin. Les deux hommes se saluèrent d'un Heil Hitler sans chaleur. Avec l'attentat sous l'Unter den Linden, Reinhardt n'avait pas chômé. Rien de grave a priori. Un simple règlement de compte entre deux factions communistes rivales, semblait-il. La victime était une femme. Elle avait une arme et la Mercedes-Benz 770 avait été volée à la Gestapo. Il faudrait du temps pour découvrir son identité, mais des contrôles étaient en cours. Reinhardt n'avait aucune raison d'en parler à son chef. Il ne fallait aborder avec lui que les questions importantes. La mort d'une femme anonyme n'en était pas une. À l'instant même où Himmler quittait le QG de la Gestapo, Martin Wurz relisait pour la dixième fois le singulier message que l'un de ses assistants venait de lui remettre. L'Abwehr avait reçu la visite d'un ecclésiastique indien, Mgr Mario da Silva, lequel avait sollicité une entrevue avec lui pour le lendemain matin. Ce qui était bizarre, mais pouvait à la rigueur se comprendre. Le Vatican, qui avait des informateurs partout, savait que Martin s'occupait des affaires indiennes. Détail étrange cependant, l'Indien prétendait connaître Herr Wurz, l'ayant rencontré, disait-il, à Bruges, le 8 septembre 1932. Une fois de plus, Martin hocha la tête. Non, impossible. Il était bien allé à Bruges en 1932 avec Jutta et Kristen Lloyd, mais c'était à Noël, pas en septembre. Il s'en souvenait parfaitement. Y avait-il une erreur de date ? 8 septembre. Curieux. C'était il y a 10 ans au jour près. À moins que... Martin hocha la tête. Non, c'était impossible. Le 8 septembre, c'était, bien sûr, d'abord et avant tout, la date de naissance de Kristen Lloyd. Si tel était le cas, cette date devait être prise pour une signature, celle de son ami anglo-indien. Ce qui signifiait que ce vénérable prélat avait sans doute un message à lui remettre. Oui, c'est cela. Kristen avait dû regagner l'Inde et le hasard l'avait mis sur la route de ce da Silva en partance pour l'Allemagne. Martin sourit. Il reconnaissait là l'imagination de Kristen. Il s'apprêtait à quitter son bureau quand le téléphone sonna. C'était l'amiral Canaris en personne. La conversation fut brève, comme d'habitude. « Nous avons reçu aujourd'hui des microfilms de Goa. C'est un certain Mgr da Silva qui nous les a remis. J'apprends qu'il aurait pris rendez-vous avec vous. En effet, demain à 11 h. Fort bien. Je ne comprends pas pourquoi ces microfilms nous arrivent, qui plus est par un chemin aussi détourné. Da Silva aurait dû les remettre, il y a plusieurs semaines, à l'un de nos agents du Caire. Or, celui-ci a été assassiné par les Britanniques. Bizarre, vous ne trouvez pas ? Bon, j'envoie un message à nos informateurs en Inde et au Vatican. Il me faut en savoir plus sur ce da Silva. Je vous tiendrai au courant. » L'amiral avait déjà raccroché. Assis sur un banc devant l'entrée de l'hôpital, Rudolf Breuer attendait depuis 2 h. De temps en temps, il se levait et faisait quelques pas dans les jardins, mais sans jamais quitter de vue le portail. Pour ne pas être reconnu, il s'était affublé d'un chapeau mou et d'une paire de lunettes d'écaille. La précaution était inutile, car son physique insignifiant n'attirait pas le regard. Dans une église, on le prenait pour un bedeau, dans une gare pour un cheminot, dans une université pour un employé chargé de la maintenance, et à l'Abwehr, on le croisait dans les couloirs sans même le voir, tant il était transparent. Dans cet hôpital aussi, il passerait inaperçu. Breuer détestait les hôpitaux, comme il détestait sa mère, car celle-ci avait un seul sujet de conversation, sa santé, avec tout ce qui, de près ou de loin, s'y rapportait. Les bactéries, les microbes, les virus, les cancers, les courants d'air, les décès, les visites de médecins, les médicaments, les enterrements, les prises de sang. Grâce au génie de Hitler, une nouvelle Europe était en train de naître. Mais cela laissait Frau Breuer indifférente. Elle ne parlait du Führer que pour évoquer les rumeurs qui couraient sur sa santé. La présence de prisonniers de guerre en Allemagne l'inquiétait, car elle prévoyait que la tuberculose, la peste et le choléra seraient bientôt des maladies endémiques dont elle devinait ça et là les premiers signes. Comment expliquer autrement cette toux sèche qui la privait de sommeil, ce dérèglement digestif qui lui taraudait les entrailles, cette constante température à 37,2, d'autant plus inquiétante qu'elle était peu élevée. Breuer savait que depuis quelque temps, il négligeait sa mère. La réaction maternelle ne s'était pas fait attendre, et la maison de retraite avait déjà téléphoné 3 fois pour l'informer que Frau Breuer était au plus mal. Mais cela faisait déjà 60 ans qu'elle avait un pied dans la tombe. Eh bien, tant pis, entre sa mère et le Führer, le choix était facile. Vers 18 heures, Breuer sentit que son attente n'avait pas été vaine. Jutta Wurz venait d'apparaître au bout de l'allée. Il enleva son chapeau, ouvrit sa musette, en sortit une blouse blanche d'infirmier, puis, à distance raisonnable, emboîta le pas à la femme. Comme il le prévoyait, elle se rendit aussitôt au bureau du chirurgien. L'homme de l'Abwehr s'attendait à arpenter le couloir pendant de longues minutes lorsque la porte s'ouvrit. Hoffmann et Jutta se dirigèrent vers l'escalier qui menait au sous-sol. Breuer dut redoubler de prudence et augmenter la distance qui le séparait de sa proie. Quand il débarqua à son tour dans les profondeurs de l'hôpital, il vit une porte se fermer, celle de la morgue. Les deux suspects ressortaient déjà. Breuer n'eut que le temps de se cacher derrière un pilier. Rayonnant de joie, persuadé d'avoir enfin ferré un gros poisson, il laissa passer 1 minute, puis reprit le chemin de l'escalier. Ce soir, il écrirait un long rapport qu'il glisserait dans le dossier Brutus, qui contenait déjà tant de documents accablants. Puis, dès demain, il demanderait un rendez-vous urgent à Himmler et lui apporterait tout sur un plateau. Il se frotta les mains. Si tout allait bien, Martin et Jutta Wurz seraient bientôt sous les verrous, et cet hypocrite de Hoffmann convié à une petite entrevue dans les caves de la Gestapo. Il parlerait, et pas seulement du baron Dupuytren. Breuer se retrouva dans le jardin, récupéra la musette glissée sous le banc, y glissa sa blouse blanche, puis repartit à grands pas vers l'Abwehr. La nuit serait courte, mais chargée de toutes les promesses de l'aube. Christine demanda à Tapa de faire un rapide tour de la ville. Sans doute aurait-il été plus sage, il le savait bien, de filer tout de suite vers le sud afin de trouver la maison du major Drucker, mais il voulait revoir certains lieux de son passé. Il se fit arrêter près du grand parc du Tiergarten, où l'on apercevait les batteries de la DCA, et s'y attarda quelques instants en fumant une cigarette. Assis sur un banc, 2 vieillards, ils avaient au moins 80 ans, le regardaient avec envie. Il leur sourit, fit un pas vers eux, se présenta et leur tendit son paquet d'Africa. Ils se servirent avec avidité. « Merci, mon père, » fit l'un d'eux. « Il y a 2 ans que nous ne fumons plus que du fumier. » Devant l'intérêt évident de l'ecclésiastique étranger, l'homme expliqua que les Johnnies disponibles sur le marché, quand elles l'étaient, car les stocks étaient limités, devaient être faites avec du crottin de chameau. « Et pas le même chameau, » précisa-t-il avec humour, « puisqu'elles n'ont jamais le même goût. » Du coup, intervint son voisin, le gouvernement fait campagne contre le tabac. Mauvais pour la santé, paraît-il. Ces gens-là sont prêts à tous les mensonges. Le Berlinois éclata d'un grand rire. « Vous connaissez quelque chose qui soit bon pour la santé, à commencer par la guerre et le boulot ? Le chocolat démolit le foie. Le savon est mauvais pour la peau. Le sexe, bon, tout ça je m'en passe, facile même, à mon âge. Le tabac, c'est déjà plus dur. Mais quand on vient me dire que l'alcool est mauvais, alors je dis non. Vous pourriez vivre sans bière et sans vin, mon père ? » Christine concéda que cela lui serait difficile. « Notez bien, poursuivit le vieillard, qu'on en trouve dans les grands hôtels. La preuve, j'ai un cousin qui travaille à l'Adlon et qui m'en refile à l'occasion. Si je vous disais que dans certains bars, Toutes les bouteilles que l'on voit sur les étagères sont remplies d'eau colorée. Oui, oui, elles sont là pour faire joli. L'année dernière, on a même essayé de nous convertir au jus de rhubarbe. Au jus de rhubarbe! Il cracha par terre avec dégoût. La capitale du Reich restait une rebelle. Hitler, d'ailleurs, ne s'y sentait pas chez lui et ne s'attardait jamais longtemps à Berlin. Si ça continue, reprit l'homme, on va nous proposer du rutabaga, comme en 1916. Ce qui me console, c'est qu'à Londres, ça doit être pire, bien pire, reprit-il. Christen se garda de le détromper. Il offrit une nouvelle Africa aux deux Berlinois, puis, alors qu'il s'apprêtait à repartir, revint sur ses pas et offrit son paquet aux deux vieillards. La charité, après tout, était censée être son fonds de commerce. Et puis, ne serait-il pas bientôt en Suisse? L'anglo-indien remonta dans l'hispano-suiza, qui repartit vers l'Unter den Linden, avant de bifurquer à droite vers le château de Charlottenburg. Puis il demanda à Tapa de poursuivre vers ce qui, au début des années 30, avait été l'un des quartiers chauds de la ville, du côté de la Bülowstrasse. Tout était déjà fermé lors de son dernier séjour. Mais Christen était un nostalgique. Il aimait remettre sans cesse ses pas dans les siens. Il reconnut avec émotion le cinéma où il avait vu pour la première fois, en 1930, l'actrice berlinoise Marlene Dietrich. L'ange bleu n'y était plus à l'affiche. Berlin, on en voyait ça et là les traces, avait souffert des raids aériens, mais pour l'essentiel, la ville était intacte. La guerre était cependant très présente. Il y avait des queues de femmes et de vieillards devant les boutiques, et beaucoup de magasins étaient fermés. La circulation comptait plus de véhicules militaires que de voitures. Qui aurait pu reconnaître sous ces traits fatigués ce qui, 10 ans auparavant, était une des villes les plus enjouées du monde? Même les putes et les mendiants, jadis si nombreux dans les rues, semblaient avoir fui la capitale, et la guerre avait transformé les chômeurs en combattants. Christen fit signe à Tapa que la visite était terminée. Avec la sortie des bureaux et des ministères, la circulation reprenait soudain du poil de la bête. La voiture du Vatican repartit vers la porte de Brandebourg, puis fila vers le sud. Ce même 8 septembre, dans la belle maison de Charlottenburg, où il s'était installé après avoir vécu à l'hôtel Excelsior, Subhas Chandra Bose terminait la lettre pour son frère Sarath, resté en Inde, et avec qui, d'ailleurs, on le confondait souvent. Oui, c'était bien l'ennui de s'appeler Bose. Il y avait tellement de Bose au Bengale que personne ne s'y retrouvait. Comme si un destin singulier s'attachait à ce patronyme. Un destin d'agitateur. Dès 1908, les Anglais avaient déjà condamné à mort et exécuté un certain Bose. Et voici que, 34 ans plus tard, l'Inde britannique se heurtait de nouveau à ce nom, mais en deux lieux différents, à Berlin et à Tokyo. En cette fin d'été 1942, un autre Bose, Raj Behari, brandissait l'étendard de la révolte. C'était ce Bose-là qui, en 1912, à Delhi, avait tenté d'assassiner Lord Hardinge, le vice-roi, alors que celui-ci entrait à dos d'éléphant dans la nouvelle capitale de l'Inde britannique. C'était lui aussi qui, en 1915, avait fomenté des troubles au Punjab. L'homme vivait au Japon depuis 30 ans. Par une curieuse coïncidence, deux Indiens portant le même nom, mais sans aucun lien de sang, étaient, en 1942, à la proue du combat contre le pouvoir colonial. Le premier, marié à une Japonaise, partageait son temps entre Tokyo et Singapour. Le second, marié à une Autrichienne, vivait à Berlin. Subhas Chandra Bose eut un sourire en cachetant sa lettre. Son frère Sarath avait eu moins de chance que lui. Arrêté par les Anglais au début de la guerre, on l'avait promené de prison en prison. Aux dernières nouvelles, qui n'étaient pas très fraîches, il se trouvait maintenant à Merkara, la petite ville de l'état princier de Cork, au sud de l'Inde. Autant dire au diable vos vers. Il faudrait des mois pour que cette missive lui parvînt, si tant est qu'elle lui parvint un jour, car les lettres de Bose utilisaient des chemins compliqués. Depuis son arrivée à Berlin, il les confiait à des amis travaillant dans les consulats et ambassades des pays neutres. Une fois en Inde, elle changeait souvent de main avant d'être remise à son frère. Finalement, pensa Bose, On en était revenu au début du XIXe siècle, bien avant l'ouverture du canal de Suez, quand une lettre mettait 4 à 5 mois pour aller de Londres à Calcutta, ce qui ne simplifiait pas les choses. Pour l'heure, Subhas Chandra Bose s'apprêtait à mettre un terme au chapitre allemand de sa vie. Il espérait bien être à Rome dans quelques jours, quelques semaines tout au plus, pour organiser son envol vers l'Asie. Tout était prêt. Les Allemands le logeaient, le protégeaient et lui procuraient les fonds nécessaires. Hitler l'appelait « Excellence », ce qui n'était pas rien. Sur les ondes, Bose avait pignon sur rue et venait de publier un article de fond dans le magazine « Wille und Macht ». Il disposait d'une armée de 2 000 soldats. L'Allemagne avait son Führer, l'Italie son Duce, l'Espagne son Caudillo et l'Inde son Netaji. En tant que chef de l'Inde nouvelle, il avait déclaré la guerre à la Grande-Bretagne le 1er mars, ce qui dans les faits ne changeait rien, mais les Anglais n'appréciaient pas. Le docteur Goebbels en était du moins persuadé. Face à l'Azat Hind Radio, la BBC, la Bluff and Bluster Corporation, le bluff et l'esbrouf, comme disait Bose, avait mis le paquet en recrutant pour ses émissions destinées à l'Inde l'écrivain George Orwell, un spécialiste du mensonge et du double langage, un ancien policier de Birmanie qui, d'ailleurs, se targuait d'idées socialistes pour mieux tromper son monde. Il fallait être de mauvaise foi pour prétendre que ce choix était le fruit du hasard. Comme Bose, c'est au Bengale que George Orwell était né. Restait à trouver un moyen de transport, et pour cela Bose comptait sur les Italiens. Il avait quelques fidèles à Rome. Il en aurait eu beaucoup plus si Mussolini ne s'était pas entiché d'un autre Indien, le musulman Iqbal Shedai, lequel faisait en Italie, où il était arrivé en 1940, la même chose que Bose en Allemagne. Pouvait-on faire confiance à cet intrigant, prêt à tous les mensonges? Certes, lui aussi plaidait pour l'indépendance de son pays dans les salons de la ville éternelle et sur les ondes de Radio Himalaya. Au QG du Centro Militare India, Shedai recrutait des Indiens faits prisonniers en Cyrénaïque, avec peu de succès puisqu'il n'avait séduit que 300 soldats. 300 ! Lui, Bose, en comptait déjà plus de 2 000. Sa fauche, son armée, grandirait d'un coup quand elle fusionnerait avec les milliers d'Indiens qui l'attendaient à Singapour. L'année 1943 serait celle des grandes victoires. Rome. Cretino. Mario Volponi faillit se donner une claque. Tout soudain lui apparaissait clairement. Il avait manqué de psychologie, et c'est pourquoi aucun douanier ne répondait à son avis de recherche. Eh oui, un fonctionnaire n'est pas là pour servir l'État ou le citoyen, mais pour créer, par sa seule présence, d'autres emplois de fonctionnaires chargés de vérifier son travail et de remplir à tour de bras des dossiers inutiles qui dormiront dans un coin pendant des mois avant d'échouer aux archives où d'autres fonctionnaires veilleront sur eux pour l'éternité. Volponi avait réagi en policier, oubliant qu'il s'adressait à des gens qu'il fallait caresser dans le sens du poil. Il fallait d'abord les rassurer, préciser que la sécurité de leur emploi n'était pas en cause et annoncer noir sur blanc que tout renseignement donné faciliterait leur promotion et serait accompagné d'une forte récompense. L'imprécision de l'adjectif permettrait ensuite d'en limiter les effets. Non que les douaniers italiens fussent plus intéressés que les banquiers de Rome, les bardaches de Capri ou les gondoliers de Venise. Mais si on parlait de récompense, cela voulait dire qu'aucune sanction ne serait prise contre les fonctionnaires de service à la frontière. Volponi chargea ses hommes d'envoyer un nouveau message à tous les postes de douane. Il s'apprêtait à quitter son bureau quand l'un de ses jeunes assistants, le boutonneux Donato Fontevecchia, s'approcha de lui un câble à la main. Le chef de la police parcourut le document et fit la grimace. Il espérait une information majeure et cet oligophrène lui offrait de la roupie de son sonnet. L'arrestation en Calabre d'une petite frappe, Pietro Borghese, pour un vol de voiture à Rome. Grand bien lui fasse. Volponi éclata d'un grand rire et rendit le document à son adjoint. Un jour, grommela-t-il, vous allez me tenir informé des vols de lapins. Réfléchissez avant d'agir, Donato. Le jeune policier se grattait de l'index un bouton qu'il avait dans la narine gauche. « Si, capo, vous n'avez pas tort d'avoir raison. Mais c'était une Hispano Suiza, une voiture du Vatican. Or, Pietro est le neveu de son oncle. » Fontevecchia aurait mieux fait d'aller voir un dermatologue. C'était avec des gros dégoûtants comme lui que se déclaraient la peste et le choléra. Le Vatican ? Nous sommes ici en Italie, jeune homme. Le Vatican est un territoire occupé par l'Église. Et cessez de vous curer le nez en ma présence, Donato. Je n'ai aucune autorité au Vatican, qui d'ailleurs, puisque vous m'en parlez, est un état bidon. Imaginez que les Mormons, les Juifs, les Musulmans, les Luthériens, les Sikhs, les témoins de Jéhovah, les Quakers ou les disciples de Zoroastre réclament à leur tour un bout d'Italie pour y créer leur État. Il ne resterait plus aux Italiens qu'à s'installer au Sahara. La géopolitique n'intéressait pas Donato Fontevecchia, et la religion encore moins. Il s'essuya le doigt sur le bord de sa veste avant de revenir à la charge. « Oui, chef, mais une idée m'est venue cet après-midi, et je n'ai pas osé vous en parler. » Volponi eut un sourire. « Fort bien. Voici que les inférieurs se mettaient à penser. » Il fit signe au boutonneux de poursuivre. « Ben oui, reprit le pustuleux. Je me suis dit que si moi je serais un espion soviétique, si j'étais !» Fontevecchia fit la grimace. La grammaire non plus n'était pas son fort. « Si j'étais un espion bolchevique, chef, eh bien je ne ferais ni une ni deux. J'irais chourer une tire du Vatican. Eh ben oui, le corps diplomatique, ça en jette. Comme ça, ni vu ni connu. Et je n'aurais aucun mal à franchir les frontières. Les doigts dans le nez. » Londres. Le colonel Barnes s'était trompé sur un point. Eric Jackson avait sauté une fois en parachute en 1928 au-dessus de son village natal de Capelseline au pays de Galles. C'était par défi personnel et il avait eu si peur qu'il s'était bien juré de ne jamais recommencer. Or, voici qu'il allait recommencer et sauter au-dessus de l'Allemagne, sans aucun entraînement cette fois. Valait-il mieux mourir d'un cancer à Londres sur un lit d'hôpital ou d'une balle dans la peau en Bavière? Le policier préféra ne pas répondre à cette question. Puisqu'il avait dit qu'il sauterait, il sauterait en croisant les doigts. Il restait 24 heures pour préparer les documents dont Jackson aurait besoin, ce qui serait un jeu d'enfant. Toute une équipe de faussaires y travaillait. Puisqu'il était gallois, on lui donna une identité bretonne. Pierre Lecor, né à Kerlivit en Argol, Finistère, ingénieur des ponts et chaussées à Dinan, Côte du Nord, requis en Allemagne dans le cadre du travail obligatoire et basé à Munich. Ce qui expliquerait, on pouvait du moins l'espérer, l'accent bizarre qu'avait Jackson quand il parlait français. Il pourrait même disserter en gallois pour faire couleur locale. Il était peu vraisemblable, après tout, qu'un policier allemand fût a priori capable de distinguer le gallois du breton. L'ingénieur aurait dans sa poche deux lettres de recommandation, des faux bien sûr, l'une de Mgr Serrant, l'évêque du diocèse, l'autre rédigée en allemand, signé du chanoine Menzer, supérieur de l'école des Cordeliers de Dinan, où le corps était censé avoir fait ses études. En quelques heures, Scotland Yard avait réussi à découvrir, grâce à René Pleven de la France libre à Londres, le nom du seul directeur d'école de Bretagne dont l'allemand était la langue maternelle. L'état-major rappela à Londres le capitaine Stand, qui prenait quelques jours de permission à Macduff en Écosse. Épuisé, Jackson refusa le dîner que lui proposait le colonel, rentra chez lui et se fit une injection de morphine. Puis il se coucha. C'était, il n'en doutait pas, la dernière nuit qu'il passait dans son lit. Dans moins de 24 heures, le Hurricane de Stend survolerait Munich.